Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Michel de Gégère, bonjour.
Bonjour.
Nous fêtons cette année un anniversaire particulier, celui d'une œuvre traduite dans le monde entier, plus de 160 langues, vendue à plus de 80 millions d'exemplaires. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un livre paru en France au mois d'avril 46, il y a donc 60 ans. Son auteur n'en verra pas l'édition française, mais l'édition américaine. Elle sera publiée, elle, en 1943. C'est son éditeur américain, Eugène Reynal, qui, voyant Saint-Ex griffonné sur un coin de table, lui commanda un conte illustré pour enfants. Alors, le hors-série du Figaro, Michel de Gégère, qui vient de sortir dans vos kiosques, est donc consacré à Saint-Exupéry, au Petit Prince naturellement, mais aussi à la vie de son auteur, ses voyages et bien sûr son œuvre. L'évocation d'Antoine de Saint-Exupéry, Michel de Gégère, provoque chez l'interlocuteur le scepticisme. Qui était-il, Saint-Exupéry? Un boy scout avec tout ce que cela comporte de naïveté, ou bien au contraire un écrivain humaniste?
Alors c'est une des choses les plus étranges, c'est qu'effectivement l'évocation de Saint-Exupéry, à la fois c'est un écrivain qui a eu un succès immense, qui a toujours un succès immense, dont l'œuvre est toujours extraordinairement lue, avec des tirages qu'enviraient beaucoup de ses confrères, mais en même temps c'est vrai que c'est un homme qui suscite une certaine ironie, un petit peu condescendance, avec, comme vous l'avez dit, le terme de boy scout qui revient facilement sur les lèvres, alors que tout de même, lorsque l'on examine la vie de Saint-Exupéry, bien d'abord c'est une vie extraordinaire, c'est une vie comme peu d'hommes en auront vécu. Je vous rappelle qu'il a été l'un des pionniers de l'aéropostale, il a été chef d'escale dans le désert saharien, il a été pilote d'essai, il a participé au raid de Paris-Saigon au terme duquel il s'est crashé dans le désert, il s'est retrouvé perdu avec son mécanicien seul dans le désert libyen, sauvé par miracle par quelques nomades qui passaient par là. Il a été correspondant sur le front de la guerre d'Espagne en 1936 et en 1937. Il a fait la guerre de 39-40 au sein d'une escadrille donc qui a perdu 17 équipages sur 23. Donc c'est quelqu'un qui a vu le feu de très près. Enfin, il a participé à la libération du territoire alors que, vous le savez, il avait passé la limite d'âge pour piloter. Il a voulu participer à la libération de la France et il est mort au combat. Donc une vie extraordinaire, une vie extraordinairement romantique, avec cet amour de légende, avec sa femme Consuelo, avec un nombre de conquêtes féminines tout à fait impressionnant. Et puis, à côté de cette vie, une œuvre quand même extraordinaire qui lui a permis de toucher un petit peu tous les genres. Le roman d'aventure, mais un roman d'aventure qui a une dimension presque métaphysique à la Joseph Conrad. Des souvenirs portés, là encore, jusqu'à la chanson de geste. Je pense à un livre comme Terre des Hommes. Un conte philosophique qui a eu le succès que vous venez de rappeler, Le Petit Prince. Une épopée lyrique citadelle qui renoue avec, au fond, la littérature prophétique, le cantique des cantiques. Donc une œuvre qui lui a permis d'aborder à peu près tous les thèmes, la poésie de l'action, la solitude du cœur, la chaleur de l'amitié, la foi des bâtisseurs, la poésie de l'enfance, la magie du désert, la guerre, la mort des civilisations. Alors ramener cette vie et cette œuvre exceptionnellement dense, exceptionnellement riche, à une pensée un peu pauvrette d'un boy scout qui aurait eu beaucoup de bonne volonté mais peu de talent, je trouve que c'est dérisoire.
Alors vous le rappeliez, Saint-Ex était pilote, mais ses talents d'écrivain lui permirent de devenir également reporter en une époque très troublée, les années 30. Il est envoyé par Pierre Lazareff, jeune rédacteur en chef de Paris Soir, en Espagne pour couvrir la guerre d'Espagne.
Oui, c'est un petit peu les lettres de noblesse des grands reporters. C'est le moment où Pierre Lazareff envoie Simenon, envoie Sandrart, envoie Kessel sur différents fronts. Et Saint-Exupéry, lui, eh bien, il part pour Barcelone en 1936, alors que la guerre civile vient à peine d'éclater. Et il se trouve dans une ville qui est tenue, une région qui est tenue par les anarchistes du POUM. Et ce qu'il y voit le frappe de stupeur. Il écrira que la guerre civile n'est pas une guerre, c'est une maladie. Il écrit « On fusille ici comme on déboise, les hommes ne se respectent plus les uns les autres ». Le spectacle de cette guerre qui est fait par des comités d'épurateurs qui liquident leurs adversaires politiques, qui procèdent à des règlements de compte absurdes, eh bien le frappera pour la vie. Et loin de prendre fait et cause pour ce qui est une tendance naturelle de l'envoyé spécial du correspondant de guerre, loin de prendre fait et cause de façon unilatérale pour les gens auprès desquels il passe ses journées de guerre, eh bien il fera de ses reportages un manifeste contre la guerre. Et puis un an plus tard, il est renvoyé en Espagne, cette fois à Madrid, encerclé par les troupes franquistes. Il y est en compagnie, il est à l'hôtel, dans le même hôtel qu'Hemingway ou John Dos Passos. Son hôtel sera d'ailleurs bombardé et l'on verra le spectacle de Saint-Exupéry en pyjama dans le hall de cet hôtel bombardé, alors que tout le monde s'affole. Saint-Exupéry, d'un très grand calme, qui partage sa réserve de pamplemousse avec les habitants de l'hôtel. Mais cet épisode de Madrid, ce séjour à Madrid, c'est lui qui lui inspirera un reportage qui sera repris ensuite dans Terre des Hommes, qui est un passage devenu très célèbre, sur un sergent qui est réveillé au petit matin alors qu'a été commandée une attaque suicide, une attaque qui doit l'amener inéluctablement à la mort. Et ce sergent, en se réveillant, apprend que l'attaque est décommandée. Et Saint-Exupéry décrit ce réveil comme un petit peu le symbole d'une humanité broyée par la guerre civile, par la guerre moderne.
N'est-ce pas tous ces tourments, cette guerre, l'émergence des totalitarismes qui, au fond, créent l'humaniste Saint-Exupéry?
Oui, et puis qui, d'une part, va lui donner le sentiment du caractère précieux de la personne humaine, ça c'est indéniable, et qui en même temps va conditionner des prises de position qu'on comprendra mal, qui seront les positions qu'il aura pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation.
Alors justement, le manichéisme qu'il côtoie pendant la guerre d'Espagne, il le revit en quelque sorte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est la position de Saint-Ex dans les années 40 ?
Alors c'est une position qui est extraordinairement paradoxale, puisqu'il quitte la France, donc il participe d'abord à la campagne de France, comme je l'ai dit, au premier rang, de façon très courageuse, une expérience qu'il racontera dans Pilote de guerre, ce livre magnifique sur la guerre de 39-40, qui exalte le sacrifice consenti tout de même par la France face à l'envahisseur allemand, qui montre la réalité de ce qu'a été cette guerre à une époque où l'on prétendait que les Français s'étaient rendus sans combattre. Il montre la réalité de cette guerre qui a quand même coûté 100 000 morts à la France. Et puis Saint-Exupéry part aux États-Unis. Aux États-Unis, il vit dans un milieu essentiellement gaulliste. Et Saint-Exupéry va se retrouver dans cette situation paradoxale d'être dans le camp de la résistance, dans le camp du refus de l'occupation de l'Allemagne, tout en étant étranger au gaullisme et même hostile au général de Gaulle et à ses partisans. Alors pourquoi est-ce que Saint-Exupéry a été un résistant anti-gaulliste ? Ben d'abord, parce qu'il avait le souci de la France réelle et il avait le sentiment que cette France réelle avait été sauvée par l'armistice, qu'il fallait l'armistice pour que la France ne soit pas victime d'un désastre complet, qu'il fallait un gouvernement de circonstance pour assurer le ravitaillement des Français. La grande idée de Saint-Exupéry, c'est que justement la France n'est pas une idée. Le concept gaulliste d'idée de la France lui paraît dangereux parce que la France n'est pas une idée, c'est une communauté de personnes réelles dont il faut bien assurer d'abord la survie et le ravitaillement, même si cela oblige des gouvernements à un certain nombre de compromissions avec l'occupant. Et puis, son séjour aux États-Unis lui donne le dégoût de ces résistants de New York, ces résistants de l'arrière, dont le symbole est André Breton, qui, dit Saint-Exupéry, aura tout au long de sa vie avant-guerre, contribué à démanteler à peu près tout ce qui pouvait faire obstacle au nazisme, le christianisme, le patriotisme, l'esprit de sacrifice, l'union des Français, et qui, après avoir détruit tout ce qui pouvait permettre à la France de faire face au nazisme, joue les héros à l'arrière, loin de la ligne de feu, en expliquant ce qu'il faudrait faire et en expliquant qui il faudrait fusiller. Et la ligne de conduite de Saint-Exupéry, qui sans doute provient de son expérience, comme nous le disions tout à l'heure, de la guerre civile espagnole, c'est le refus de l'épuration. C'est l'idée qu'en politique, le bien et le mal, ce sont des choses complexes, que la politique, c'est l'art du possible, qu'on ne juge pas en noir et blanc des situations aussi difficiles que les situations comme l'occupation allemande, que les Français sous l'occupation allemande sont des otages et que l'on ne juge pas des otages quand on n'en partage pas la condition. Et puis plus profondément, dans son refus du gaullisme, je pense qu'il y a le refus de l'idée d'une grandeur manifestée par les seuls discours. Saint-Exupéry, toute son œuvre y conduit, pense que le patriotisme se manifeste par le don de soi, par l'esprit de sacrifice, et que la façon dont on doit manifester son amour de la France dans une situation comme celle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est en retournant au combat pour aider à sa libération, ce n'est pas en préparant des comités d'épuration.
Est-ce une forme de troisième voie entre le gaullisme et le pétainisme ?
Certainement, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la lignée de ce que l'on a appelé les non-conformistes des années 30, qui ont considéré que la démocratie libérale était insuffisante comme réponse au fascisme et au communisme, qu'il fallait trouver une troisième voie, qu'il fallait trouver une voie qui ne soit ni le totalitarisme ni la démocratie libérale, mais qui sauve un certain sens de la communauté face à la montée de l'individualisme moderne, dont au fond le collectivisme n'était qu'une forme abâtardie.
Alors justement, venons-en au message de Saint-Exupéry. Et d'abord, le message du Petit Prince. Quel est le message de Saint-Ex dans le Petit Prince ? Et est-ce que Saint-Exupéry est le Petit Prince ?
Alors, le Petit Prince Saint-Exupéry est bien entendu le Petit Prince, mais le Petit Prince, c'est l'enfant resté en Saint-Exupéry, cet enfant qui refuse la montée du matérialisme, cet enfant qui proclame la supériorité de l'intelligence du cœur sur les froids calculs de la raison ou du matérialisme. Le Petit Prince, c'est l'incarnation de l'esprit d'enfance dont Saint-Exupéry pense qu'il est l'étincelle, qu'il est l'âme qui peut sauver le monde.
Alors justement, son œuvre majeure, en tous les cas, pour ceux qui connaissent Saint-Exupéry, c'est Citadelle, qui arrive un peu en miroir du Petit Prince. Citadelle n'est-il pas un livre destiné aux adultes, qui va bien au-delà du Petit Prince et qui offre une réflexion sur l'humanité en général ?
Oui, bien sûr, et c'est plus encore dans un de ses textes, une de ses lettres écrites pendant la guerre, Saint-Exupéry dit qu'il voudrait que pleuve sur les peuples quelque chose qui ressemble à du grégorien. Il pense que pour sauver le monde moderne face à la dictature de la matière qu'il entrevoit, cette dictature, cette société où l'on ne vit que pour l'accumulation de biens matériels, où l'on pense que c'est en ayant des engins, des frigidaires, des automobiles de plus en plus sophistiqués qu'on atteindra à l'harmonie et au bonheur, eh bien, cette société matérialiste l'effraie et il pense qu'il faut faire pleuvoir sur cette humanité un champ qui lui redonne un sens spirituel. Et ce sera la clé de la forme de Citadelle, qui est une forme prophétique, qui est une forme extraordinairement lyrique, un petit peu difficile à lire. C'est pas un livre qu'on lit d'un bout à l'autre comme un roman, c'est un livre que l'on savoure, que l'on médite, qui est d'une très grande beauté, qui renoue vraiment avec une littérature épique du genre de l'Iliade et de l'Odyssée, du genre du Cantique des Cantiques. Et le message de Citadelle, eh bien, c'est que ce qui donne un sens à une vie, c'est le don à quelque chose de plus grand que soi, le don à une communauté. Le sentiment de Saint-Exupéry est que d'un tas de pierres, il faut faire une cathédrale et que de cette cathédrale naîtra la noblesse et la fraternité. C'est la phrase qui fonde le titre de son livre. « Fais-leur bâtir une tour et tu les transformeras en frères. Donne-leur du grain et ils te jetteront des pierres.
» Saint-Exupéry, pessimiste joyeux ?
Je ne sais pas s'il est toujours joyeux. C'est quelqu'un d'un pessimiste mélancolique plutôt que joyeux. Je pense que c'est quelqu'un qui était très amusant, très fraternel, très amical. Les témoignages que l'on a sur sa vie, c'est un spécialiste de tours de cartes qui était certainement très agréable à vivre. Mais il y a, il me semble, et ça se sent en lisant sa correspondance, il y a toujours chez lui un fond de mélancolie qui est fondé sur la nostalgie de l'enfance, la nostalgie du parc, de la maison de famille, qui était un royaume imaginaire, qui était préserver eh bien, des contraintes et des compromissions de la vie.
Robert Aron disait de lui, il est mort d'un amour trop exigeant et trop lucide pour un pays dont les enfants avaient perdu le goût de s'aimer. Il se serait retrouvé, d'après vous, après la guerre ?
On ne peut pas savoir, c'est impossible de faire parler Saint-Exupéry, mais c'est vrai qu'il y a dans les lettres des derniers moments un pessimisme très noir, et que alors qu'approche la libération de la France, Saint-Exupéry paradoxalement devient de plus en plus pessimiste, de plus en plus noir, parce qu'il voit que cette libération sera l'occasion d'une sorte de guerre civile, d'un affrontement qui, au lieu de réunir les Français, les divisera de façon profonde, et donc il s'est réfugié dans le combat pour fuir cette réalité qui lui était insupportable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se soit suicidé, comme certains l'ont prétendu, je ne crois pas du tout, mais je pense qu'il a estimé que la seule chose qui pouvait donner une signification à son existence, c'était de la sacrifier à sa patrie, à sa communauté, à sa conception de l'homme.
Eh bien, Michel de Gesser, c'est sur cette idée de sacrifice que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur des hors-séries du Figaro, les hors-séries du Figaro qui consacrent un numéro à Saint-Exupéry, entre ciel et terre, le petit prince à 60 ans. Merci beaucoup, Michel de Gesser.
Merci à vous.
Et à très bientôt.